Salut. C'est pas la première fois que je vous raconte une longue histoire.
Les Voraces, une présidentielle, mais en alexandrin.
Les Voraces, tragédie à l'Élysée en cinq actes et en vers, de Frédéric Bon, Michel-Antoine Burnier, Bernard Kouchner. L'histoire se passe à Paris, nous sommes en 1974, lors des élections présidentielles.
Et à peine cette campagne a-t-elle commencé que deux impertinents trentenaires, aujourd'hui décédés, décident de la transcrire en vers. L'un, c'est Frédéric Bon, chercheur à la pointe des sciences politiques, maître S-Sondage. L'autre, son cousin, Michel-Antoine Burnier, rédacteur en chef d'Actuel. Il est lui maître S-Pastiche. Il en a déjà publié plusieurs avec Patrick Rambaud, dont un fameux Roland Barthes sans peine. Découvrant leur manège, un troisième vient se greffer à la paire, c'est Bernard Kouchner. Il lui est arrivé de tâter du journalisme, avec Burnier justement, sous la houlette d'Emmanuel Dastier à l'événement. Déjà médecin sans frontières, il exige de participer. « Hé, les copains, vous n'allez pas me laisser sur le bord de la route dans cette aventure !» Bon et Burnier le préviennent. « Quelle que soit ton énergie, Bernard, un ver ne fait que 12 pieds. Il faut une césure à l'hémistiche et les rimes masculines et féminines doivent s'entremêler. » Kouchner promet de faire au mieux et les trois compères travaillent d'arrache-pied, chacun de son côté, dans la rue, au café, au pied de la télé. Ils se retrouvent dans la maison de Kouchner à Gentilly pour mettre en harmonie leur production propre. André Ballan édite à la vitesse grand V, une première version est même disponible avant le deuxième tour. Chaque député reçoit la version finale dans son casier en même temps que les kiosquiers. Et le succès est immédiat. Que noble est la vertu des sciences politiques quand elles sont fidèles aux beaux auteurs classiques et le combat électoral en sort grandi quand, en alexandrin, tous les clichés sont dits. À la grande surprise des auteurs, la pièce sera même représentée dans l'excellent petit théâtre que dirige alors Arlette Thomas dans le futur parc de la Villette. L'adaptation radiophonique, dont nous vous proposons des extraits, a été produite en 2002. Elle est due à Jacques Taroni, lui aussi disparu. Vous repérerez dans la distribution Denis Podalydès, Michel Vullermoz, Éric Esmolino, Jacques Bonafé et bien d'autres que vous nous aiderez peut-être à identifier. Nous commençons d'ailleurs avec des anonymes. Ils visitent le palais présidentiel, parmi eux un automédon. Alors précisons, parce que l'ubérisation ne sévissait pas encore, c'est un conducteur de fiacre automobile à taximètre, Dieu seul. C'est pourquoi il est encore là en 1974. Le pastiche peut se permettre l'anachronisme.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'automédon, le fin 10h, la foule des touristes, un guide, une petite fille.
Suivez-moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Regardez ce salon, comme il semble spacieux. Le président de Gaulle y rassemblait la presse et se faisait questionner avec beaucoup d'adresse.
Giscard, et c'est bien pis, saisit chaque occasion de montrer son visage à la télévision. Ainsi qu'un professeur à un but de connaissance, il détaille son cours avec suffisance.
Ne soyez pas cruel. Mieux vaut communiquer que tel un Pompidou ne jamais s'expliquer.
Giscard fait le pédant. Son discours m'indispose. J'aime mieux le mystère et la force des choses. Puisque je ne peux pas peser sur son pouvoir de ce gouvernement, je ne veux rien savoir.
Ce président me plaît. Il marche sans voiture.
Construite par Mollet, admirez la toiture.
Vous confondez l'État et la locomotion.
Ici, la Pompadour faisait ses dévotions. Et voici le divan sur lequel Félix Faure rendit son âme à Dieu.
Un touriste allemand grossièrement érudit avec un fort accent germanique.
Jugez sur la pécore. Ah, aucun des Français. Les femmes des Paris.
À cet instant, une petite fille américaine tire sur un fil.
Oh, regardez, Daddy. Quel est donc cet objet?
Le père de la petite fille avec un fort accent du Texas.
Je te l'ai déjà dit, lorsque nous parcourions la fière Maison Blanche, c'est un micro Betty fixé dessous le planche. N'y touche surtout pas.
Cette année 74 a été funeste. Le président de la République est mort à son poste. Pleurez les yeux, pleurez, effondrez en eau. Pompidou est descendu dans la nuit du tombeau. Et Alain Poher, pour la seconde fois, a assuré l'intérim.
J'aime cette maison, ses huissiers, ses tourelles. Cela vous pose un homme et vous fait respecter. Assure à votre nom une immortalité. D'un président de fête, je me sens l'aptitude. J'ai pris de ce palais les bonnes habitudes. Tous mes amis d'Ablon viennent m'y visiter. Ils admirent, séant ma virtuosité, tripotent les objets, tirent à bas les housses. Ce sont de braves gens que mon lustre éclabousse. Prenons garde pourtant qu'ils ne dérobent rien. Je suis le président, le comptable des biens. Allons, je suis content. Allons, la place est bonne. Elle vaut à coup sûr qu'à la fin je m'abonne. Une semaine ici, une semaine là, cela finira bien par faire un septennat. Je vais goûter la sauce.
Et pendant qu'Alain Poher fait la tournée des popotes, le bal des prétendants débute. Le premier à s'y produire trop tôt, c'est Jacques Chaban-Delmas. Le président de l'Assemblée, Edgar Faure, voudrait bien en être, mais il y aura vite pléthore. Alors il fait fonctionner ses antennes.
Entre un espion masqué.
Ô Seigneur, savez-vous ce que je viens d'apprendre ?
Parle sans t'émouvoir, je suis pressé d'entendre ce qui s'est dit ce jour à l'hôtel Matignon pendant le comité de tous les compagnons.
J'étais là-bas caché derrière une tenture et chaque prétendant à la candidature s'avançait entouré de tant de courtisans qu'il se formait déjà des groupes partisans. Les voilà réunis, ces barons formidables, qui livraient en ces lieux un combat détestable. Ces princes si fameux qui, du gouvernement, ont su rester les chefs presque indéfiniment. Les voilà devant moi, du haut de leur stature, et cette fois encore je tremble à leur figure. L'ambitieux Chirac, le fidèle Germain, accompagne Mesmer, que l'on dit l'Africain. Chaban le Magnifique, avec Guichard dans l'ombre, se penche vers Debré, plus amer et plus sombre qu'au jour où l'écolier, coiffé d'un entonnoir, défilait dans les rues afin de le déchoir. Et tandis qu'on entend gronder de sa voix sourde, sanguinait-il preux à la démarche lourde, en un lieu retiré, détingé, le discret sollicite l'avis d'un conseiller secret. Puis l'abbé entre enfin, sa prétention comblée, étonné de se voir en si noble assemblée. Je vous ai réunis, dit fermement Mesmer, car le scandale est grand, ici comme outre-mer. Notre majorité, jadis victorieuse, foule aux pieds l'unité pourtant si précieuse, se dispute sans phare, étale ses ébats, et puise son esprit en des obscurs combats. Voilà Jacques Chirac s'entretenant d'impôts, et Chaban qui répond, retirez ce propos. On parle de police, et de Madame Claude, de quelques souteneurs et de mille ribaudes, d'un château restauré, de Markovitch enfin. Pas même en épargna le président éteint. Il faut, s'écrit Debré, pour battre Mitterrand, trouver un candidat qui soit de premier rang. Regardez, malheureux, regardez vos sondages. Comment à ce niveau ramasser du suffrage? Le fracas devient tel que sans rien préparer, les barons en fureur doivent se séparer.
Alors beaucoup des noms qui sont cités ici sont oubliés depuis 1974. Le royaume des morts s'est étendu. Justement, dans le monde classique, que les voraces pastiches. Le royaume des morts a sa juste place. Aux élèves, souvenez-vous, était naguère proposé des exercices du genre. Vous supposerez un dialogue aux enfers entre l'Iphigénie d'Euripide et l'Iphigénie de Racine. Vous apprécierez aussi à sa juste mesure ce surgissement dans le cabinet du Premier ministre, Pierre Mesmer, qui songe lui aussi à concourir, du spectre du général lui-même.
Je suis là! Me vois-tu? Lève-toi, Pierre Auguste, ancien légionnaire! Repense à Birakem, aux gloires millénaires, à Jeanne la Pucelle, à Bertrand du Guesclin! à tous ceux qui, sans crainte, ont bravé le déclin. Résistants éternels, Clémenceau, Bonaparte, tandis que les factions, les porteurs de pancartes, les partisans du peu, prophètes de malheur, esprits qui toujours nient, malfaisants, déserteurs, comme à l'accoutumée, se partagent la France. Et pourquoi balancer devant tant de souffrances? L'avenir prime tout. Il est entre les mains des nombreux bataillons garants des lendemains. Peuple fidèle, encore qui m'appuya naguère et qui saura contrer tous ces concussionnaires.
Eh bien, malgré l'appel pressant du général, Pierre Messmer, dit Pierre-Auguste, va finir par renoncer à un combat pour lequel, venu d'un autre âge, il n'est décidément pas fait. Dans la scène 4 du premier acte des Voraces, le style va perdre de sa hauteur, c'est que nous sommes chez Valéry Giscard d'Estaing, celui qui va devenir le favori. Il n'a cure de la grande histoire et il sait comment s'adapter aux servitudes du temps.
Aurais-je donc sans fin à porter ce fardeau, être le lieutenant et jamais le prophète, misérable abreuvé d'humiliation secrète?
Il ne sera pas dit qu'un homme tel que toi, en dépit qu'il en ait, obéisse à leur loi. Change, pauvre abusé, change de batterie, arrache-toi sur l'heure à leur machinerie. Ne romps point les effets de ton intention et laisse libre cours à ton ambition. Ce que tu es déjà, choisis de le paraître. Écarte ces gredins pour t'en faire le maître.
Mais j'hésite.
Il suffit. Pense à ton personnage. Tu ne peux malgré tout effacer ton image. Tu es pour les Français un homme familier. Ils sont là, devant toi. Ne te fais plus prier. Pompidou disparu, la haine générale n'ayant plus à le craindre, avidement s'étale. Tous brûlent de servir sous des ordres plus doux. Tous veulent à l'envi les recevoir de nous. Et pour être toi-même au dernier point heureux, tu n'as plus qu'à venger 10 ans d'ingratitude, 10 ans d'abaissement, 10 ans de servitude. Allons, assure-toi, sois digne de ton sang, parle. De grâce, un mot, un seul mot.
Je consens.
Bon, et Burnier et Kouchner, les auteurs des Voraces, connaissent bien le monde communiste, qui est encore très flamboyant en cette année 1974. Le secrétaire général du parti, c'est Georges Marchais. Il vient d'inventer l'expression « les gens » pour remplacer les camarades et de publier le défi démocratique. Et il est allié avec François Mitterrand. Un exercice scolaire est présenté dans l'édition des Voraces, un peu comme il y en a d'autrefois dans les Castex-sur-Erre, les Lagarde et Michard, les classiques Larousse. Imaginez, dit cet exercice, les réactions de Georges Marchais s'il avait eu connaissance de ces vers de François Mitterrand. Nulle part il n'est dit dans la législature qu'on doive aller au bout d'une unique aventure. C'est qu'en effet, François Mitterrand, le candidat de la gauche apparemment uni, a plus d'un tour dans son sac.
Au siège du Parti Socialiste, cité Malesherbes, dans la grande salle de réunion.
Il me reste pourtant un doute dans l'esprit.
Ne cache point cela.
C'est que je crains le prix que notre allié récent, le Parti communiste, va vouloir exiger comme protagoniste.
Je serai vigilant. Ne me crois point naïf. Je sais combien ces gens sont parfois possessifs. Comment ils ont un jour, en Tchécoslovaquie, occupé le pouvoir avec barbarie. Comment le stalinisme en Russie pratiqué a courbé ce pays sous un joug étriqué. Je ne me méprends point, je connais cette engeance. Il faut pour la manier la plus grande prudence. J'ai besoin de leur voix, mais je crains leur conseil, leur administration et tout leur appareil. En Russie des soviets, la terreur assassine a jeté dans un camp plus d'un seul Génitsine. Mais ici, Patelin, notre Georges Marchais promet de renoncer aux lettres de cachet. Autant de fourberies et sans équivalence. À Paris, la douceur. À Moscou, la violence. Je sais qu'on n'aime point de telles vérités, mais mon roi étant seul, je parle avec franchise. L'absence de témoins cette fois l'autorise, et je garde avec toi la même liberté que si Georges Marchais n'avait jamais été. Les voix de celui-ci nous sont complémentaires, ce n'est pas pour autant alliance égalitaire. Avec Georges Marchais, nous allons vers l'Empire, afin qu'on m'abandonne à un palais où j'aspire. Une étroite confiance apparemment nous joint, mais enfin nos désirs ne compatissent point. Sachons qui se doit vaincre. Abattons le gaullisme. Ensuite, nous verrons avec le communisme.
Tout est clair, Seigneur. Me voici rassuré.
Ainsi parla Pierre Mauroy. L'électeur français est un fin connaisseur et il commente avec appétit ces coups de Jarnac qu'il devine et qui se prépare en effet. Néanmoins, de tous les candidats, la grande multitude laisse l'électeur dans l'incertitude.
Un débit de boisson de la banlieue parisienne. Le patron. Un fin diseur. Un automédon, cocher de fiacre automobile à taximètre. Plusieurs consommateurs.
Et pour vous, ce sera
Un mandarin citron.
Il se compte par 12 ainsi que les apôtres. Je n'insisterai pas sur les plus glorieux. Jacques Chaban-Delmas, si souvent victorieux, le premier sur les rangs.
Cet homme est trop allègre, je n'aime pas sa voix.
Le diriez-vous intègre? Je garde souvenir d'une feuille d'impôt.
À qui n'en vit autant, je tire mon chapeau. Parlons de Mitterrand.
Celui-là, c'est le pire.
N'insultez pas, monsieur, le peuple qui soupire. Mitterrand a l'appui de tous nos syndicats.
Votre saucisson beurre.
Et se fermer pour en cas.
Modérez vos propos. Cette querelle est digne de malheureux troublés par le jus de la vigne. Poursuivons la revue. J'en arrive à Giscard.
Puisqu'il est soutenu par le grand Guy Descartes, par Roger Perfitte et Michel de Saint-Pierre, et puis Sylvie Vartan à la voix familière, je voterai pour lui.
Gardez votre opinion et cessez de brandir ainsi votre fanion. Parlons de Jean Royer.
C'est là notre espérance contre les chevelus.
Ah, Jean Royer, aux jeunes gens, oublieux de la vertu, il faut rappeler les mérites du maire de Tours. Dans sa vieille de chevaux, il ne cessait d'inspecter les abords de sa ville pour que ne s'y produisent pas d'actes illicites ou que ne s'y construisent pas ces grandes surfaces qui maltraitent le paysage. C'était un combattant inspiré, bien que parfois un peu rabat-joie.
Dans l'appartement de Jean Royer. Jean Royer, puis Madame Royer.
Ils se présentent tous. Et donc, pourquoi pas moi? Les petits commerçants sont partout en émoi, accablés par l'impôt, menacés de faillite, livrés cruellement aux mains cosmopolites de ces grands magasins sans âme et sans pitié qui baissent indûment leur marge de moitié. Artisans valeureux, remparts de notre France que l'on veut à tout prix jeter en déchéance. Rentiers, dans le besoin, paysans déconfits, tout un peuple immolé sur l'autel des profits, retraités sans recours au fond de la province, concierges de Paris dont le pécule est mince, surmontez vos chagrins et reprenez espoir. Écoutez mon discours. Il s'agit de vouloir.
Madame Royer, entrant avec une tisane.
Pardonnez, mon ami, mais je vous vois en transe. De ces nouveaux soucis, faites-moi confidence.
Madame, de cela, je ne vous dirai rien. Élevez nos enfants, vous le faites très bien. Mais la chose publique apparaît trop complexe pour qu'on puisse y mêler les personnes du sexe.
Madame Royer, soumise.
Voici votre tilleul et voici vos chansons.
Ah, c'était l'heure, en effet, de ma saine boisson.
Au Palais des Congrès de Toulouse, un meeting de Jean Royer. Le public, les contestataires, une jeune femme et Jean Royer s'emparant du micro comme d'une arme.
Oui, un cœur à la France, car ce mot est pour moi symbole d'espérance. Nous devons restaurer les viriles vertus, galvaniser un peuple au moral abattu, remplacer en tout lieu le stupre par l'épargne. Il faut se retenir.
Regardez cette arme!
que ce vigoureux censeur voudrait nous les couper.
Retenir est le mot. Petit émancipé. Et les pauvres vigilants, lorsqu'il va se dissoudre, au plus fort de leur âge, apprivoise la foudre, retient le fier torrent, en détourne le cours, et promptement ainsi s'impose un demi-tour.
Quelle énergie, monsieur, dans cette conjoncture, vous combattez ici les lois de la nature. La seule solution, c'est la masturbation.
Voyez masturbation, voyez masturbation, voyez masturbation.
Dans leurs exercices en notes de l'édition des Voraces, Bon, Burnier et Kouchner présentent des exercices autrement difficiles. Par exemple, décrivez le déchirement d'un promoteur immobilier gaulliste partagé entre Chabans et Giscard. Mais aussi, décrivez le déchirement d'un écologiste socialiste partagé entre Mitterrand et Dumont. Parce que se présente pour la première fois un candidat écologiste, René Dumont.
Songez à vos enfants dans les années futures qui nous reprocheront la fin de la nature. Au Larzac, comme à Fos, à Buget, le cobaye, qui de l'humanité sonne les funérailles. Si ma candidature avait pour seul effet de ralentir un peu vos sinistres méfaits, si vous pouviez parfois remplacer vos centrales par une chute d'eau combien plus pastorale. Frères, ne riez pas. Un avenir glacé bientôt vous trouvera tout de froid hérissé. Gardez votre caca, vous en aurez l'usage lorsque sera venu le moment du chauffage. Voyez ce verre d'eau, regardez ce trésor. Je bois à vos santé si je le puis encore.
Il boit un verre d'eau avec une horrible grimace.
Car cette eau-là, demain, infecte et polluée, à des millions de francs serait évalué.
Autre exercice, comme dans les classiques Larousse et Vaubourdol. Maintenant, comparez l'avertissement écologique de René Dumont, qui peut semer la consternation chez les consommateurs, à la prophétie révolutionnaire d'Arlette Laguiller, qui commence déjà à semer l'espérance chez les travailleurs.
On ne peut esquiver le combat de sa classe. Voter pour Mitterrand, c'est tomber dans la nasse. J'en appelle à Lénine, à Rosa Luxembourg, souvenir des grands chocs, révolte des faubourgs. Au sortir du conflit des employés de banque, qui plongea le bourgeois dans un tragique manque et qui fit vaciller en les privant d'argent des firmes de ressources et de fiers entre-gens. Je me présente à vous, les révolutionnaires, dont la force grandit que l'on tente de taire. Je me présente à vous, sans briguer le mandat, pour impulser l'idée dans cette corrida.
Voilà toutes les scènes d'exposition des Voraces. Vous êtes peut-être lassés, alors on va en venir sans transition au dénouement. L'un des trois auteurs de la pièce, Frédéric Bon, publia cette même année 74, les sondages peuvent-ils se tromper? On dit qu'en même temps qu'il rédigeait des vers, il avait pris le temps de prévoir le résultat à 0,1% près. Cet homme valait bien mieux qu'une pitié.
Acte 5. Le 19 mai au soir, dans les locaux de la télévision, tous les dirigeants politiques attendent fébrilement les résultats. Michel Péricard rectifiant sa cravate.
Attention, messieurs. Le temps est suspendu. L'oracle va parler au moment attendu.
Pierre Vell, directeur de la Sofres, apparaît en effet sur le petit écran.
Il fallut sous-peser le fatal pourcentage, car la marge est ténue qui donne l'avantage. Mais je puis garantir le sérieux de l'écart. 50 points et 9 pour Valéry Giscard.
L'image se brouille et Pierre Vell disparaît.
C'est gagné!
C'est perdu!
Jean Le Canuet, dont le sourire illumine la scène.
Quel bonheur!
Oh, tristesse!
Thank you.
Vous aurez reconnu, bien sûr, Cyprès et Laurier. Laurier de Saint-Saëns, une musique bien française, celle qu'avait choisie hier le président Macron pour la passation de pouvoir. Je me permets de citer une dernière fois Frédéric Bon, le premier des trois auteurs des Voraces. Il déclarait souvent « La caractéristique de la démocratie, c'est que les hommes politiques savent perdre. » Burnier publia « Que le meilleur perde de son côté ». C'est Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1974, est élu. Et bien qu'élu, il ne se considère pas comme idiot. Et il entend le prouver en composant son gouvernement. À ce propos, je vois sur l'écran de télévision, puisque maintenant il y a des écrans de télévision dans les studios de radio, que la composition du gouvernement ne serait la nomination du Premier ministre, pardon, ne serait annoncée qu'à 14h30.
Au palais de l'Élysée, dans le bureau de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, Valériane d'Estaing, le prince Poniatowski.
Peut-on sans leur appui faire un gouvernement?
Prenons pour le former un homme en dissidence, fidèle à notre cause au sein de leur tendance, se devant de servir le trône avec ardeur, car tu pourras d'un mot affaisser sa grandeur.
Nommons un inconnu pour faire une surprise. Épatant le bourgeois par une ruse énorme, nommons Servan Schreiber ministre des réformes.
Oh, l'idée que voilà. Et quoi pour nos amis les plus obéissants?
La glèbe, Bourbonnais, Fourcade à la finance. Le comte d'Ornano gérera la croissance du monde industriel. Ailleurs, des techniciens chez qui je vois encore les meilleurs praticiens.
Le professeur Abi prendra donc les collèges.
Ambassadeur à Bonn, le plus fin des stratèges, aura le Quai d'Orsay.
J'ai pourtant fait serment de placer une femme en mon gouvernement.
Ah, c'est celle qu'il vous faut. Une femme de tête, dont les capacités feront votre conquête. Simone Veil.
Fort bien.
Et vous n'avez toujours pas le nom du Premier ministre. En 1974, c'était Jacques Chirac avec Cyprès et Laurier de Saint-Saëns. Voici cette leçon de grand style qui s'achève et demain nous reviendrons au style journalistique. Adieu donc le vers antique, mais rions encore. C'était donc la restitution de la pièce Les Voraces dans une réalisation pour France Culture de Jacques Taroni. En 2002 et la réalisation, cette année, c'est l'ISCOM avec Théo Gomard à la technique et Ilinka Negulesco à la préparation.